France Inter. .fr.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Monsieur
Le dossier Cohen. Alstom, vous avez beaucoup occupé au gouvernement. Il était déjà question de dissimulation puisque vous vous demandiez s'il fallait passer les patrons au détecteur de mensonges. Il s'agissait de la vente de la branche énergie d'Alstom. Finalement, vous aviez obtenu pour l'État 20% des droits de vote. Pourquoi faire? À quoi ça sert si le gouvernement est toujours aussi ignorant et impuissant?
Je me le demande. Ces 20% avaient pour but, d'une part, d'organiser l'équilibre face à General Electric, car, comme vous le savez, j'avais négocié avec General Electric sous le coup d'un décret qui protège nos intérêts industriels, que j'avais fait prendre dans les secteurs stratégiques et que nous avions menacé, que j'avais menacé d'utiliser, et qui pourra d'ailleurs servir pour la suite, d'obtenir un équilibre face à General Electric sur la partie énergétique, mais aussi que nous soyons forts sur le développement de la branche ferroviaire. Mmh. Et je me pose en effet la question, d'ailleurs avec les élus du territoire de Belfort, avec les syndicalistes, les ouvriers, les cadres. Pour quelle raison, alors que l'État est actionnaire unique de la SNCF et a le pouvoir de la commande publique, et que par ailleurs l'État est le premier actionnaire de référence d'Alstom, l'équipe de France du ferroviaire ne travaille pas main dans la main.
Donc
44 locomotives ont été commandées aux Allemands, qui d'ailleurs les font fabriquer en Pologne. 44 locomotives, c'est presque 2 ans de travail pour la seule et dernière usine de locomotives, qui est celle où on a fabriqué toutes les locomotives de la SNCF depuis...
Ouais, c'est une filiale de la SNCF en l'occurrence. Hein.
Non, je parlais de Belfort. C'est le seul endroit où on a fabriqué, c'est la seule usine de locomotives en
pour
France.
La commande.
Et en plus, où on fabrique des motrices de haute technologie. C'est l'endroit où on fabrique les motrices du TGV. Il y a d'ailleurs dans cette usine le projet de fabriquer le TGV du futur, c'est-à-dire en 2020. Donc que se passe-t-il entre 2018, fin du renouvellement des rames que j'avais obtenu en tordant le bras du président de la SNCF dans mon bureau, parce que ça sert à ça, le volontarisme politique, et le TGV du futur, eh bien, il pouvait y avoir les locomotives les motrices de manœuvre de la SNCF. 44 locomotives. Par ailleurs, Alstom vient d'obtenir un contrat en Inde pour 1600 locomotives. On en fabrique 5 à Belfort. Vous voyez comment les autres pays s'organisent. On a obtenu le contrat pour Alstom sur la côte Est des États-Unis sur le TGV. Où vont être fabriqués ces TGV? Aux États-Unis, parce que c'est le Buy American Act, c'est un système protectionniste. Les Indiens disent, vous aurez le contrat de locomotive, mais il faudra les fabriquer en Inde. Et on en fabrique que 5 à Belfort. Donc vous voyez que nous devrions nous armer pour faire exactement la même chose.
Mais cela prouve que l'intervention de l'État n'est pas un remède miracle si le gouvernement commet des erreurs ou si les ministres sont des mauvais patrons, Arnaud Montebourg.
Mais je pose cette question, c'est-à-dire, si nous siégeons au conseil d'administration, il y a 2 hauts fonctionnaires de très bons, j'allais dire, pour qui j'ai grande estime, qui sont des gens très sérieux, qui ont donné les informations.
Mais ils n'ont rien vu.
Ben, ils ont donné les informations. Alors qu'a fait le ministre? Je suis désolé de dire qu'il y a un ministre de l'économie qui est chargé de ça. Il y a un ministre des transports qui peut aussi veiller, qui veille sur la SNCF, puisque c'est quand même l'outil de tous les Français. Que s'est-il passé pendant ces 3 mois? Est-ce que vous savez que les organisations syndicales sont allées plaider dans les ministères pour que la SNCF prenne la décision de commander les 44 locomotives qui ont été finalement données aux Allemands? Et sans succès. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, il faut le résoudre. Donc moi, je demande que le gouvernement revienne sur ses décisions, organise l'unité de l'équipe de France du ferroviaire et fasse en sorte que le site de Belfort soit maintenu en l'état. Ce n'est pas pensable autrement. Nous n'abandonnerons pas un site de savoir-faire aussi hautement technologique avec des capacités d'autonomie pour la fabrication de la filière ferroviaire de nos locomotives.
Restons sur votre programme, Arnaud Montebourg, celui que vous avez présenté à Frangy, la nationalisation bancaire comme dans le programme commun des années 70, c'est une option sérieuse?
Ce n'est pas comme le programme des années 70, c'est ce que font tous les pays libéraux, ce qu'ils ont fait pendant la crise. Donc ce n'est pas que le programme commun. D'ailleurs, j'ai indiqué qu'il pouvait s'agir d'une nationalisation partielle, temporaire, comme nous l'avons fait dans Alstom, nous l'avons fait dans PSA, avec grand succès d'ailleurs, puisque l'argent que les contribuables ont mis dans PSA, 800 millions d'euros, valent le double aujourd'hui.
Comme ça le Crédit Lyonnais qui a coûté des milliards aux contribuables?
Mais pas forcément, parce que vous voyez, on a créé la BPI. Mais la BPI, il faut la faire passer du stade microéconomique au stade macroéconomique. C'est-à-dire, par exemple, moi je propose que le système d'encouragement au crédit, c'est-à-dire le cautionnement par la BPI des crédits que les banques ne veulent pas accorder, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu 62 000 entreprises qui ont été cautionnées par la BPI. Nous pourrions passer à 10 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. Ça concerne seulement 3 milliards de crédit. Donc je voudrais dire ici qu'il ne s'agit que d'un instrument, d'un outil de souveraineté économique dans une période où nous avons besoin de reconstruire notre industrie. Il ne s'agit pas ni de jeter l'argent par les fenêtres, ni d'abuser d'un quelconque pouvoir. Il s'agit au contraire de se rendre maître des outils de crédit dans une période où le système bancaire ne finance plus l'économie réelle. Elle ne finance pas les PME et dans des proportions qui sont gravement insuffisantes. Pendant 2 ans, j'ai fait la traversée, non pas du désert, mais de l'économie française, à la tête d'une petite PME, en travaillant pour d'autres. Et je dois vous dire que le seul problème que rencontrent ces petites entreprises, c'est les grands groupes qui ont des comportements un peu prédateurs, et le système financier et bancaire qui ne fait pas son travail. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en occupe pas, Monsieur Cohen. On ne s'en occupe pas assez. Et la puissance publique a une responsabilité. Donc soit nous laissons faire, ce qui est le cas aujourd'hui, et c'est ce que je regrette, soit nous décidons finalement d'organiser la collaboration du système financier avec l'économie réelle. Et si ça doit passer par une nationalisation éventuelle d'une banque, eh bien ça passera par là. Je préfère avoir l'honnêteté de le dire par avance.
On parle de politique, Arnaud Montebourg, avec les communistes à la fête de l'UMA, puis avec les frondeurs du PS à La Rochelle. Vous avez passé votre week-end avec, comment l'appelez-vous, la gauche alternative, la gauche critique, la gauche d'opposition?
D'abord, je ne suis pas allé que là. Je suis allé aussi devant les patrons du Made in France, aux assises du Made in France avec Monsieur Jégot.
Ça, c'est encore avant, oui.
Mais pourquoi? Parce que ma candidature et les propositions que je formule, proposition pour reconstruire, réinventer la France, oui, et construire des solutions nouvelles. Oui. Je les formule devant tout le monde.
Oui, le Made in France, il y avait tous les autres candidats, y compris à droite, à l'extrême droite.
C'est vrai, à gauche aussi. Oui. Il y avait Mme Lindemann.
Oui, d'accord. Voilà. Alors, parlons de la gauche, alternative, critique, d'opposition.
La gauche qui cherche la solution pour s'unir. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, enfin, elle cherche, elle a du mal à trouver.
Oui, parce que vous avez raison.
Tout le monde dit la même chose. Rassemblons-nous. Mais derrière moi.
Écoutez, il y a un outil qui est très important pour faire ça.
La primaire.
Je comprends que les primaires.
Ah, ben voilà.
C'est un outil d'ailleurs que j'ai contribué à créer, à inventer, il y a quelques années. Et c'est un outil qui a pour objectif justement d'organiser le débat et de faire trancher les Français. Cet outil-là, il ne peut pas être un outil de convenance personnelle. J'ai lu que le président de la République avait dit qu'il se contenterait de débat à la portion congrue. C'est son terme. Je pense que ce n'est pas possible.
Il a dit ça ?
Oui, il l'a dit.
Ah bon ?
Donc, c'est dans les journaux. Donc, nous avons un problème. C'est qu'il faut juste que cette primaire soit loyale, ouverte. Et c'est la responsabilité du rassemblement sur les épaules du Parti Socialiste qui pèse lourdement. Et c'est cela qu'il faut, ce pourquoi je travaille. Donc quand je dis, je suis évidemment candidat dans le cadre d'une primaire, j'ai contribué à les inventer, mais je souhaite que ces primaires soient loyales, équitables. Et c'est comme ça qu'on évitera l'éclatement, la dislocation. Parce que, vous l'avez remarqué, non seulement les Français sont quand même un peu fâchés avec la gauche, mais maintenant, nous en sommes à arriver à ce que la gauche soit elle-même fâchée avec elle-même. Mmh. Donc faisons quand même attention, parce que nous sommes devant le risque d'un scénario noir de l'élimination programmée dès le premier tour d'élection
présidentielle. Donc la primaire, c'est la solution que vous privilégiez aujourd'hui à Arnaud Montebourg. Mais quand on demande aux Français qui peut représenter la gauche critique à la présidentielle, leur première réponse, c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon, qui sera, il l'a dit, candidat quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui vous distingue de Jean-Luc Mélenchon ?
J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est un homme qui a des convictions et on ne peut pas lui retirer cette force. Je veux juste dire que la question du rassemblement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être radical, de le rester et de se suffire à cela. Il faut être capable de rassembler beaucoup plus largement une majorité de Français. Je crois que lorsque nous avons à discuter de ces questions, c'est ce critère-là qui prévaudra.
Lui, il vous demande de rompre avec le PS.
Oui, d'accord, mais je suis un socialiste depuis 30 ans. Je n'ai jamais adhéré à d'autres partis. Il m'est difficile d'abandonner une famille dont je regrette la dérive, parfois la dénaturation. J'aurais rêvé que le Parti Socialiste soit différent, il ne l'est pas, il faut faire avec. Je peux dire une chose, c'est que mon projet, il est socialiste parce que je suis, mais pas seulement. Il va chercher aussi, dans l'écologie, une source d'inspiration, dans le républicanisme. La République a besoin d'être un peu mieux carénée en période de tempête, mais aussi dans le gaullisme social, je l'ai dit dans mon discours de déclaration de candidature, car il y a là des éléments qui doivent être, dans cette période de capitalisme mondialisé trop financier, des éléments d'équilibre au sein des entreprises qui doivent être portés. Je défends, autant devant les patrons du Made in France, autant devant les communistes de la fête de l'humanité, autant devant ma famille socialiste, je défends une alliance capital-travail, ce que moi j'appelle l'alliance des forces productives, pour reconstruire l'industrie et l'économie de ce pays, pour justement financer le modèle social et les services publics qui nous font défaut aujourd'hui.
Juste un mot, si on quitte un instant le terrain de l'économie, si on se place sur le terrain des libertés publiques, François Hollande, jeudi dernier, s'est présenté en rempart, en garant, gardien de l'état de droit, qui est mis en cause par plusieurs candidats de droite. Auriez-vous pu applaudir son discours de Wagram ?
Mais certainement, d'ailleurs j'ai applaudi beaucoup de discours de François Hollande. La question, ce ne sont pas les discours, ce sont les actes. Et ce que je sais, c'est que la fracture au sein de la gauche, la dislocation de la gauche, vient aussi d'un certain nombre de décisions qui ont été prises, et pas seulement sur le terrain économique. J'approuve mon amie Christiane Taubira lorsqu'elle dit que la question de la déchéance de nationalité pour les binationaux a été une fracture ouverte, et d'ailleurs, elle a quitté le gouvernement. Elle ne l'a pas quitté lorsque nous nous sommes vus au moment où nous avions des désaccords sur l'austérité fiscale que le gouvernement avait ordonnée par soumission à des dogmes que je considère comme obsolètes venant des traités européens.
Vous avez approuvé la première partie du quinquennat sur le plan économique ?
Je dois vous dire que je me suis battu pied à pied.
Oui,
sans grand succès d'ailleurs.
Vous avez publiquement approuvé le rapport Gallois, je m'en souviens.
Mais le rapport Gallois contient d'excellentes choses et qu'il faudrait encore aujourd'hui mettre en application. Excusez-moi, le rapport Gallois n'est pas l'incarnation de la politique d'austérité. La politique d'austérité, c'est des hausses d'impôts sur les classes populaires.
Des baisses de cotisations, patronales.
Sur les classes populaires et les classes moyennes. Mais je suis favorable à ce que la question de la compétitivité soit examinée. Ce n'est pas ça, l'austérité. L'austérité, c'est qu'on fasse payer le prix de la crise à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. C'est ça la grande injustice de ce quinquennat.
On poursuit avec vous, Arnaud Montebourg, dans quelques minutes, et avec les auditeurs d'Inter qui nous appellent au standard. Il est 8h33.